Et c'est le Arina Razamouelin. Bonjour.
Bonjour, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de La Réunion.
Vous êtes coordinateur de l'unité de veille sanitaire de la COI. Ça se passe dans l'océan Indien dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement. Et Antoine Gélin est à mes côtés pour vous poser quelques questions.
Et on peut rappeler, bonjour Arina Razamouelin, on peut rappeler un peu ce que c'est. La COI, c'est une organisation qui rassemble les Comores, Madagascar, Maurice, la région Réunion, bien évidemment, et les Seychelles. Ce qui fait que vous avez quand même un recul aujourd'hui sur tout ce qui se passe dans l'océan Indien par rapport au Covid, d'autant plus que vous êtes coordinateur de l'unité de veille sanitaire de la COI, une structure qui a été créée il y a quelques années, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc l'unité de veille sanitaire de la COI est une structure qui coordonne ce qu'on appelle le réseau SEGA One Health. SEGA, c'est pour surveillance épidémiologique et gestion des alertes. Donc depuis 2009, on est soutenu par l'Agence française de développement pour la sécurité sanitaire au niveau des États membres de la commission de l'océan Indien. Donc c'est un réseau qui regroupe les ministères de la santé, enfin environ 250 professionnels de la santé dans les États membres, des gens qui sont au niveau des institutions comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture également avec des vétérinaires, des biologistes dans les laboratoires publics et aussi dans les institutions de recherche comme l'Institut Pasteur, le CIRAD ou des partenaires comme la PIROA. Donc effectivement, nous sommes complètement impliqués dans la gestion du Covid avec en appui aux États membres. Et principalement dans l'échange, la veille sanitaire, le partage d'informations sanitaires et la facilitation et l'appui à la riposte selon les demandes et les besoins des États membres.
Ça, c'est sur le programme RSIE, c'est ça. Vous avez, en fait, il faut le dire, la commission de l'océan Indien a différents programmes, dont ce fameux programme qui permet une concertation renforcée entre les pays de la commission de l'océan Indien. Et donc ce fameux projet RSIE, expliquez-nous, qui a commencé lui en 2008 avec trois volets. Et là, on a entamé le troisième volet, 8 millions d'euros sur 5 ans. Alors à quoi ça sert très concrètement ?
En fait, le projet, comme vous l'avez dit, le projet RSIE, les projets RSIE, on en est à la troisième phase. Ça a commencé en 2009, donc à la suite de la crise du chikungunya, donc une crise sanitaire dans la région en 2006. Les États membres se sont rendus compte que chacun s'était enfermé, qu'il n'y avait aucun partage des informations sanitaires. Ouais. Et tout le monde en a subi les conséquences avec plusieurs milliers de cas dans la région. Et les ministres de la Santé se sont rendus compte qu'il valait mieux se coordonner, échanger des informations sanitaires. Et d'où la création du réseau SEGA en 2009. Et les projets RSIE sont les projets qui sous-tendent, qui appuient le réseau SEGA à travers ce financement de l'AFD. Donc la première phase a commencé en 2009. Et là, nous en sommes à la troisième phase depuis 2018. Donc cette troisième phase a commencé avec 8 millions dans le cadre du 8 millions d'euros, hein. Oui. Et dans le cadre du Covid-19, la COI vient de bénéficier d'un appui supplémentaire de l'AFD de 2 millions d'euros, ce qui ramène à 10 millions d'euros cette troisième phase. Et si on prend le total depuis 2009, on est à presque 22 millions d'euros d'appui de l'AFD sur ce réseau SEGA. Et l'objet principal, c'est vraiment cette lacune qu'on a observée durant la crise du chikungunya. C'est
Alors le oui, justement. De la veille sanitaire.
Oui, c'est vraiment le partage des informations sanitaires entre de façon sécurisée. Hein, c'est pas public, mais c'est entre les autorités compétentes des différents États membres pour pouvoir mieux se préparer, mieux gérer, avoir des réponses solitaires, des réponses coordonnées sur les différentes crises. Et pour favoriser ou appuyer les États dans la riposte ou avoir aussi cette solidarité dans l'appui en termes de mobilisation d'experts, en termes d'expertise technique. Et ce réseau, c'est nous au sein de l'unité de veille sanitaire qui le coordonnons. Mais au niveau de chaque pays, on a des points focaux, on a les unités de veille dans chaque pays qui font en fait, qui sont les embranchements dans chaque État membre qui forment le réseau en soi.
Et qu'est-ce qui a changé justement maintenant que vous êtes en plein dans la crise du Covid? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque de la crise du chikungunya dans l'océan Indien? Est-ce que justement il y a cette coopération est renforcée, vous a permis d'aboutir à des choses concrètes et de pouvoir faire des statistiques plus facilement aussi?
Tout à fait. Beaucoup de choses ont changé et nous avons plusieurs exemples. Là, en plus du Covid, donc j'en viens au Covid après, mais par exemple, en santé animale, on a eu la crise de la fièvre aphteuse à Maurice. Donc les États étaient au courant bien dès qu'il y a eu la crise. Il y a eu la solidarité. Vous savez, il y a eu une dizaine de vétérinaires malgaches qui sont venus appuyer à Maurice dans la riposte contre cette maladie. Et les autres pays étaient au courant directement en temps réel de l'évolution de la maladie pour pouvoir se prémunir, se protéger. Et c'est pareil durant la crise de la peste pulmonaire à Madagascar en 2017. Donc nous avons été envoyés en appui sur le terrain. Il y a eu des appuis aussi en matériel pour répondre à cette crise. Et ce sont des exemples parmi d'autres. On travaille à la fois sur le côté santé humaine et santé animale. On a eu des interventions aux Comores, aux Seychelles. Et l'intérêt, c'est vraiment la préparation. Les pays sont préparés, ils savent en amont qu'il y a quelque chose qui se passe avant que ça arrive chez eux. Et oui, ils ont des informations consolidées de la part des autorités compétentes, consolidées et sécurisées en termes de transmission de confiance pour que ça ne vienne pas là où il ne faut pas. Donc c'est pour les utilisateurs que les informations sont destinées. Et là,
c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, pardon, au cours de cette crise Covid-19.
Pour cette crise de Covid-19, vous savez, on a ce qu'on appelle une téléconférence régulière. Donc chaque semaine, on parle de comment la crise est gérée dans chaque pays. Donc chacun partage les expériences. On a des appels téléphoniques avec nos points focaux tous les jours sur l'évolution de l'épidémie pour avoir des statistiques journalières mises à jour à chaque fin de journée, chaque soirée. Et en amont même, avant l'arrivée de la crise dans la région, au moment où c'était en Chine, donc en début février, on a eu une réunion de ce qu'on appelle le comité technique régional du réseau, que nous avons tenu aux Comores, où les experts de la région étaient tous présents. On a partagé les expériences, les niveaux de préparation de chacun. Chacun a pris des leçons sur ce que les autres faisaient, des expériences. Et la COI, avec l'accord de l'AFD, a pu monter un premier plan d'urgence. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de cas dans la région. Mais ce premier plan d'urgence a permis notamment de renforcer la surveillance aux frontières, qui d'ailleurs a permis de capturer une grande partie des premiers cas qui sont survenus à la région, dans la région.
C'était début mars, ça?
C'était en début février. Ça, c'était le premier plan d'urgence. Début février, on a eu ce comité, on a eu le plan qui était validé et mis en œuvre à partir de mi-février. Et là, en fait, depuis qu'on a eu les cas dans la région, c'est-à-dire à partir du 11 mars à La Réunion, puis le 14 mars aux Seychelles, le 18 mars à Maurice et le 20 mars à Madagascar, on a développé toujours dans le cadre de ce réseau un second plan qui est un plan de riposte avec la présence de la maladie. Et ce plan, toujours, on a le partage de l'information sanitaire, mais ça inclut aussi le renforcement de la surveillance, le renforcement des capacités diagnostiques pour que les pays puissent faire les diagnostics nécessaires, le renforcement de la prise en charge à travers des équipements médicaux et des médicaments en fonction des besoins des pays, le renforcement de la prévention des infections à travers les équipements de protection et un partenariat opérationnel, notamment avec la PIROA qui est aussi prévu à travers ces différents domaines de compétences.
Oui. Je rappelle aux auditeurs qu'on est en direct avec Arena Razamoline, qui est coordinateur de l'unité de veille sanitaire de la COI, la commission de l'océan Indien, 02 62 2 3 4 5 6 7, pour réagir à l'antenne. Arena Razamoline, quel type d'infos vous échangez au sein de cette unité de veille sanitaire?
Premièrement, déjà, ce sont les cas. Si on prend l'exemple du Covid-19, qui est l'actualité actuelle, ce sont les nombres de cas, le nombre de décès. Ça, c'est les premières informations. Mais aussi, en dehors de ça, et c'est là que c'est très utile, si on a tout signalement, si je prends un exemple, si la Réunion détectait un cas qui est importé à partir d'un vol et que ce vol est passé par Maurice, par exemple, ça veut dire qu'il y a des passagers mauriciens ou des passagers qui ont atterri à Maurice qui auraient été exposés. Cette information est passée, c'est un signalement, et les autorités mauriciennes, en fait, quand ils reçoivent l'information, ils vont faire les investigations nécessaires pour aller chercher les cas, les personnes exposées et les cas éventuels qu'il y a eu. Et ça, c'est le type d'information cruciale qui s'échange, en fait. Et on a eu plusieurs exemples de ce type, que ce soit avec Madagascar, La Réunion, Maurice, les Comores, dans le cadre de la gestion de ce Covid. Et pareil sur les types de mesures qui sont prises dans les États, dans nos échanges quotidiens avec les points focaux. Ils posent les questions sur qu'est-ce qui est fait, quelle est la stratégie par rapport à ce qui est fait dans tel ou tel pays. Et ils demandent en échange techniquement sur quelle serait la pertinence de ce qu'il y a à faire dans tel autre pays. Et eux, ils amènent ces informations, ces propositions dans les discussions nationales au niveau des ministères, avec d'autres propositions aussi, et desquelles découlent les mesures qui seront appliquées après.
Aujourd'hui, selon vous, il y a une cohérence entre tous ces pays de la COI, entre cohérence de stratégie entre Madagascar et La Réunion? On n'a pas forcément l'impression, surtout depuis ce qui se passe depuis ces derniers jours à Madagascar avec les annonces du président Rajoelina. Est-ce que cette cohérence, elle doit encore, cohérence de stratégie de lutte face à la pandémie, elle doit encore être renforcée, et par quel biais elle pourrait l'être?
En fait, l'idée n'est pas d'avoir une uniformité. Chaque État, bien sûr, est souverain par rapport aux choix stratégiques qu'il fait et par rapport à la situation épidémiologique qui prévaut. Donc la tendance générale actuelle, c'est que les nombres de cas diminuent de plus en plus dans les États membres de la COI, et tout le monde se prépare à un éventuel déconfinement. Maintenant, chaque pays choisit en fonction des moyens qu'il a, les stratégies, et Madagascar choisit en fonction des outils qu'il a, et La Réunion aussi choisit en fonction des directives et des outils que La Réunion a. Et l'idée n'est pas forcément de copier-coller, je veux dire, si vous voyez, c'est vraiment de s'adapter au contexte de façon efficace. Et là, les échanges restent en continu, c'est-à-dire que Madagascar, quand ils échangent avec nous chaque soir, ils posent des questions sur des stratégies qui sont appliquées à La Réunion pour les considérer dans la réflexion. Donc ça, au niveau du réseau, ça reste cohérent, parce que le partage d'informations et le partage d'expériences qui permettent à chaque État d'avoir des options, de choisir, il est là.
Et il y a justement des process qui ont marché dans un pays, à Maurice ou à Amada, qui ont été justement, pendant cette crise Covid, adaptés par exemple à La Réunion ou aux Seychelles?
Disons que les contextes sont assez différents. Donc, Maurice a un dispositif qui est rodé en termes de, vous voyez, grâce au mécanisme qu'il y a eu pour l'élimination du palu, ils ont un dispositif qui permet de façon très efficace d'aller dans les maisons, de faire du contact tracing. Donc, toutes les personnes positives sont directement mises en isolement. Le contexte le permettait, et c'est un peu pareil pour les Seychelles, qui a un peu moins d'habitants et beaucoup moins de cas comparé aux autres pays, et qui a fait aussi de la même façon. À La Réunion, c'est un peu plus différent. Donc, il y a cette partie confinement à la maison ou auto-isolement si les cas ne sont pas ne sont pas des cas sévères pour ne pas aller encombrer les hôpitaux et les urgences. Donc c'est, mais certainement que c'est approprié. Tout dépend du contexte. Mais le squelette de l'intervention qui est de rechercher les cas, qui est d'isoler les cas, de protéger les contacts, de détecter s'il y a des contacts positifs. C'est le même type d'intervention, mais qui sont juste ajustés en fonction des possibilités et du contexte dans tous les pays.
Au sein de cette unité de veille sanitaire, vous échangez évidemment sur les statistiques, vous l'avez dit. Est-ce que vous échangez aussi au niveau des chercheurs, au niveau des scientifiques? Est-ce qu'il y a un volet d'échange d'informations, notamment sur la recherche sur le Covid?
Oui, absolument. C'est non seulement d'informations, mais de personnes, même dans le plan que je vous ai dit, qui a été annoncé en le premier plan en mi-février. Ouais. On a déployé, par exemple, un expert de La Réunion spécialisé dans les centres d'isolement qui était à Maurice, à Madagascar et aux Comores pour aller conseiller sur les sites d'isolement des malades par rapport aux dispositifs les plus appropriés par rapport au contexte. Et là, dans le cadre du Covid, on échange, par exemple, on a eu à échanger avec des experts du CIRAD, mais aussi avec des experts de l'Institut Pasteur de Madagascar, et pareil avec des experts de Maurice, sur les types de tests, les types de diagnostics. Vous savez, le Covid, ça évolue très vite, il y a pas mal d'inconnus, et les informations, la recherche évolue.
Ah oui,
et on échange. Mmh. C'est quotidien, et nous, ça fait partie de la veille, la partie un peu veille scientifique, on essaie de se mettre à jour. Et les personnes ressources, bien sûr, il y a la partie internationale de bibliographie et nos réseaux, nos contacts, mais aussi les contacts et les connaissances que les experts que nous, on a dans le réseau, ont. Et nous les mettons à profit, justement, pour nous mettre à jour et pour pouvoir conseiller au mieux les ministères de la Santé de nos États membres.
Et mutualisation des équipements aussi, par exemple, vous savez qu'à La Réunion il y a la grande question des masques hein, qui n'arrivent pas. Est-ce que c'est d'ailleurs le cas dans les autres pays de la COI, de la Commission de l'Océan Indien, et est-ce qu'il y a cette idée de mutualisation qui est mise en place, si par exemple les Seychelles pourraient fournir certains équipements médicaux ou Maurice ou Madagascar ou La Réunion vers d'autres pays de la COI?
Vous savez, toute la partie logistique, la chaîne d'approvisionnement des matériels est en forte pression en cette période de crise. Hein.
C'est le même cas partout, y compris à Maurice, qui a quand même une filière textile qui existe, par exemple, à Maurice. Hein.
C'est le même cas, mais ça, c'est une adaptation qu'il y a eu à Maurice et à Madagascar. En fait, c'est grâce à cette filière textile. Il y a les États ont eu des collaborations avec ces filières-là pour produire des masques qui respectent les protocoles préconisés pour que ce soit suffisamment en protecteur. Donc, il y a de la production de masques qui se fait au niveau local à Madagascar et à Maurice, qui, pour le moment, la priorité, parce que le besoin est grand, c'est de subvenir aux besoins nationaux. Mais si on parle de mutualisation, il y a une mutualisation potentielle sur les acheminements, par exemple, de matériel, ouais. D'équipements qui sont achetés. Et ça, ce sont des choses en cours de discussion. Parce que,
des containers qui arriveraient à Maurice et qui pourraient, dont une partie du contenu pourrait aller jusqu'à La Réunion ou ailleurs. Et justement, à ce propos, est-ce que cette mutualisation permet d'utiliser les filières des uns et des autres, puisque on sait que voilà, les Mauriciens ont des filières particulières d'approvisionnement, les Réunionnais, on imagine pareil, entre la Chine et tous les autres pays d'Asie, notamment. Voilà, est-ce qu'il y a cette mise en commun des filières? Est-ce que, par exemple, la Réunion peut profiter des filières mauriciennes et inversement?
Ce qui se passe, enfin, pour le moment, c'est pas des conteneurs, c'est plutôt des avions qui volent jusqu'en Chine. Hein. Ouais. Et ce qui se fait plutôt, c'est que nous, au sein de notre unité, on a contacté les différents États, les différentes personnes ressources pour rassembler une liste de fournisseurs potentiels. Donc, ça rassemble au final un peu les filières des uns et des autres. Et il y a toutes les procédures de passation de marché qui sont en cours, mais qui rassemblent l'ensemble de ces, de ces fournisseurs potentiels et l'idée c'est d'en trouver, parce que c'est ça la difficulté, ouais. C'est qu'il n'y a même pas, il y a beaucoup qui ne peuvent même pas fournir. Donc on a rassemblé des fournisseurs de La Réunion, de Madagascar, de Maurice, et tout ça, on l'a mis dans une liste, et ils ont tous été demandés pour les équipements qui ont été qui correspondent aux besoins des pays, et on voit ce qu'ils répondent pour pouvoir faire les achats. Quelque part, c'est déjà une valorisation de toutes les filières qui existent au niveau régional et international, parce que les filières des pays dépassent le niveau régional, les filières d'approvisionnement.
Par rapport à, en fait, on peut constater que tous ces pays sont insulaires et vous savez très bien que l'insularité est à la fois quelque chose de positif qui nous protège de la pandémie mondiale, mais aussi qui peut parfois se retourner contre ses habitants. Pour l'instant, on a constaté que dans l'océan Indien, en fait, il n'y avait pas énormément de cas comme on peut le voir en métropole, par exemple. C'est toute la question, cette insularité, de la fermeture, de l'ouverture des aéroports. Il y a un gros débat ici à La Réunion depuis plus d'un mois maintenant à propos de l'ouverture et de la fermeture anticipée de cet aéroport, alors au début de la crise, et puis de l'ouverture éventuelle pour le déconfinement. Est-ce que aujourd'hui c'est la même question qui se pose à Madagascar? À Madagascar, à Maurice, aux Seychelles ou aux Comores?
Tout à fait, c'est un sujet à réflexion partout, parce que si vous voyez la dynamique de la maladie, les nombres de cas ont beaucoup diminué. Hein. On est pratiquement à moins de 5 cas dans l'ensemble, chaque jour, dans l'ensemble des pays de la COI.
Y compris aux Comores, où on a l'impression que c'est compliqué quand même d'avoir les chiffres, même peut-être à Madagascar. Hein.
Non, on a les chiffres. En Union des Comores, pour le moment, il n'y a aucun cas notifié de Covid-19 en Union des Comores. Hein.
C'est
Madagascar, Maurice et Seychelles. C'est peut-être l'insularité. Enfin, c'est le cas, en tout cas. C'est les faits. Pour le moment, il n'y a aucun cas de Covid-19 notifié. Il n'y a aucun cas confirmé aux Comores. Oui. Tout à fait. Et tout le monde, en fait, est réfléchi en ce moment à ce plan de déconfinement, et ça inclut le retour à la vie normale, ça inclut la réouverture des frontières, donc
la réouverture des aéroports.
Oui, mais c'est en réflexion, c'est un débat comme partout dans le monde, hein, je pense, c'est pas uniquement dans la région, avec toutes les mesures optimales pour éviter éventuellement une seconde vague.
Parce que la seconde vague, la véritable première vague, en fait, pourrait clairement arriver de l'aéroport. C'est le seul moyen, d'ailleurs, de rompre l'insularité de ces pays.
Ben, il n'y a pas que tant qu'on a des cas, si c'est pas bien maîtrisé, même si ça vient pas de l'aéroport, une seconde vague est toujours possible. Hein. Donc c'est pas juste l'ouverture des aéroports, c'est vraiment la gestion dans l'ensemble du pays des cas qui pourraient survenir encore.
Et puis il y a la question d'un territoire qui est pas au sein de la COI, qui est le territoire de Mayotte. Aujourd'hui, Mayotte connaît une trentaine de cas par jour. On a l'impression que l'épidémie progresse plus qu'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui la COI a un rôle à jouer là-dedans, sachant que voilà, Mayotte ne fait pas partie de la commission de l'océan Indien?
Ben, comme vous venez de le dire, Mayotte ne fait pas partie de la commission de l'océan Indien, donc la COI n'intervient pas du tout à Mayotte pour le moment.
Mais ça pourrait potentiellement devenir un foyer de Covid-19 qui poserait des soucis pour les îles. Alors je pense à Madagascar, je pense aux Comores, mais aussi dans une moindre mesure à La Réunion. Bref, c'est toute la zone qui est concernée, si un territoire aujourd'hui est touché massivement par le Covid.
Oui, tout à fait. C'est vrai pour le risque de crise sanitaire comme le Covid-19. C'est vrai aussi pour beaucoup d'autres aspects. Mais c'est vraiment une question politique et une question stratégique qui, je pense, dans tous les cas, dépasse mon cadre de technicien et qui est une réflexion qui se fait au niveau du secrétaire général et des représentants directs des États membres de la COI par rapport à tout ce que vous venez de dire.
On rappelle un petit peu le rôle de l'AFD dans ce projet RSIO, l'AFD, l'Association française de développement.
Oui, l'Agence française de développement, que nous remercions. Hein, c'est vraiment le partenaire quasi exclusif depuis la création du réseau SEGA en 2009, avec ses financements qui arrivent aujourd'hui à financement engagé, qui arrivent jusqu'à presque 22 millions d'euros actuellement. Donc l'AFD est un bailleur, mais non seulement un bailleur, l'AFD vient participer aux discussions du réseau durant les ateliers, les comités de pilotage pour enrichir les discussions que nous avons. Et l'AFD pousse en fait à l'appropriation aussi du réseau AFEC, enfin bien sûr la COI. Donc là, si je peux vous dire, on a depuis 2017 la signature, en fait, l'institutionnalisation du réseau SEGA. Les États membres se sont engagés à travers la signature d'une charte dans laquelle il y a cet engagement au partage d'informations sanitaires, la solidarité, la sécurité des données en termes d'obligations de réserve, mais aussi la participation financière au fonctionnement du réseau, qui est une vraie appropriation et qui est une reconnaissance de l'efficacité, de l'utilité de ce réseau. Donc l'AFD est un partenaire qui accompagne toutes ces étapes. Et ça fait partie d'ailleurs des composantes du RSIE, du RSIE 3 que la COI avec l'AFD sur lesquels la COI avec l'AFD se sont mis d'accord. C'est cette autonomisation, c'est cette pérennisation de ce réseau SEGA.
Et je rappelle hein, le site internet de la Commission de l'Océan Indien, commission-océan-indien.org. On peut retrouver pas mal d'infos à la fois sur ce projet et sur ce troisième volet du projet RSIE, sur l'unité de veille sanitaire de la COI, mais aussi des articles pas du tout inintéressants, notamment Covid-19, le climat n'attend pas, puisqu'il y a quand même d'autres problématiques majeures qui, malgré cette crise sanitaire aujourd'hui mondiale, continuent à exister, et notamment le problème du changement climatique. Où on nous dit oui. Alors il est très intéressant l'article que vous avez publié sur votre site internet commission-océan-indien.org, où on se rend compte que évidemment le réchauffement climatique est moindre. Il y a moins de pollution industrielle en ce moment, mais que c'est une fausse idée qu'on se fait, que finalement ça ne changera pas c'est ce que disent pas mal de spécialistes, ça ne changera pas le mouvement de fond hein, du changement climatique. Et vous, à la COI, vous travaillez évidemment encore aujourd'hui, malgré le Covid-19 et toutes ces problématiques, vous travaillez encore sur ces sujets-là.
Oui, tout à fait. Enfin, vous savez, la COI, c'est plusieurs départements, incluant un département qui se charge des aspects environnement et de climat, et qui travaille sur des sujets importants. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le Covid-19, mais l'après-Covid, enfin, il y a des sujets qui n'attendent pas, et l'après-Covid, c'est pas juste l'aspect santé, c'est la gestion de la suite du Covid, mais aussi la gestion de tous ces aspects-là, donc l'aspect économique, l'aspect sécurité maritime, l'aspect climat et environnement, l'aspect entrepreneuriat, et tout ça, c'est la pêche, tout ça, en fait, c'est la COI travaille dessus et pense à la suite de tous ces sujets qui sont tellement importants pour les États membres. En parallèle et en préparation de la suite après le Covid.
Ouais. Alors, une question sur le déconfinement. Vous êtes en train d'évaluer à peu près les mesures de déconfinement suivant les pays qui composent la COI. Je sais que je crois que Madagascar a déjà entamé son déconfinement, si je ne me trompe pas. Peut-être les Comores aussi.
Oui. Les Comores, en fait, ils sont pour le moment en phase de prévention, hein, comme il n'y a pas de cas.
Donc, ouais. Donc ils ne sont pas vraiment confinés, en fait. Ils n'ont jamais été...
Pas vraiment. Il y a des mesures barrières, il y a tout cela, mais ils ne sont pas encore avec des cas. Donc, ce n'est pas vraiment le confinement comme c'est le cas à Maurice, Seychelles ou Madagascar ou La Réunion. Donc, évaluer, non, nous n'évaluons pas vraiment, ce n'est pas notre rôle, mais nous accompagnons, nous conseillons, nous discutons avec les États membres, avec les points focaux sur des stratégies quand ils nous posent des questions et nous partageons aussi les expériences des uns et des autres pour qu'ils puissent s'en approprier ou avoir des idées sur ce qui se fait ailleurs.
Ouais.
Mais sinon, chaque État est vraiment souverain par rapport à la stratégie qu'il va adopter.
Sur la sécurité alimentaire aussi, est-ce que vous avez constaté justement des problèmes d'approvisionnement et de sécurité alimentaire ici dans la région, de la Réunion aux Comores, en passant par Mada, Maurice, les Seychelles?
Ce que je peux vous dire, c'est un sujet qui est traité au niveau de la COI, la sécurité alimentaire, mais je ne suis pas du tout la personne appropriée,
parce que
c'est pas du tout dans le domaine pour le moment dans lequel je travaille, mais je pourrais trouver ces éléments-là en contactant la COI, les personnes qui s'en occupent, sur lesquelles nous on peut faciliter, bien évidemment.
Et encore une fois, sur ce site internet, commissionocéanindien.org, merci beaucoup, Arena Razamoline, coordinateur de l'unité de veille sanitaire de la COI. On imagine que vous avez quand même encore pas mal de boulot ces prochains mois, ne serait-ce parce qu'on ne connaît pas encore bien ce virus, hein, ce Covid. Merci beaucoup, Arena Razamoline.
Merci à vous, merci. Bonne journée.
Merci, bonne journée. Et puis sur Internet, Seb qui nous pose la question, pourquoi Mayotte ne fait pas partie de la commission de l'océan Indien? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des problèmes de reconnaissance internationale au niveau de Mayotte. Vous savez que les Comores ne reconnaissent pas Mayotte comme département français, d'ailleurs l'ONU non plus. Voilà, je pense que c'est lié à ces problèmes diplomatiques, on va dire, pour dire tout, oui, je pense que c'est voilà, il y a un problème entre la France et puis le reste du monde par rapport à ce territoire de Mayotte.